Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est en direct ensemble jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe entièrement reconstituée avec le retour de Patrick Cohen. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Comment réparer les victimes des attentats terroristes? Une question qui s'impose à nous, notamment depuis 2015. Dans un livre, le grand reporter de l'Obs, Mathieu Delahousse, dévoile les dessous du fonds d'indemnisation des victimes.
Mathieu Delahousse qui sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir.
64 propriétés appartenant à des oligarques russes. Ces propriétés estimées à plus d'un milliard d'euros ont été gelées par le ministère de l'économie. On a été visité, en tout cas on a essayé de visiter l'une d'elles dans les Yvelines et je peux vous dire qu'on a donné la parole au maire. C'est assez intéressant, vous allez découvrir la prise de parole du maire ce soir.
Dans un instant dans votre story. Patrick, votre édito de retour.
Je vais vous parler de cette union de la gauche encore en chantier sous la férule des insoumis. Ça coince encore avec le Parti Socialiste. Il n'y a pas encore d'accord, alors que ça a été signé avec les communistes et les écologistes. Et on va vous en raconter quelques dessous.
Édito sous l'œil avisé d'un observateur de la politique sous la Ve République, Patrice Duhamel. Bonsoir, merci de votre présence ce soir à l'occasion de la diffusion à 21h10 sur France 2 d'un documentaire qui s'intéresse à une période cruciale d'un mandat, les 100 premiers jours, là où tout se décide. Ou presque, on y revient longuement avec vous. Mathieu, dans le 5 sur 5.
La Cour suprême des États-Unis qui s'apprête à annuler le droit constitutionnel à l'avortement, ce qui permettrait à chaque État de légiférer dans le pays. Autant vous dire qu'on ne parle que de ça outre-Atlantique et on en parlera dans le 5 sur 5.
C'est dans le 5 sur 5 de Mathieu dans un instant. Et Pierre, votre œil à 20h.
Ce sera une profession de foi. Vive le cinéma, vive le théâtre, vive la République, vive la France.
Tout simplement. Michel Simès est notre invité ce soir. Alexandre Brasseur, le fils de Claude et le petit-fils de Pierre Brasseur est notre invité. Il raconte comment il a additionné les expériences tout au long de sa carrière de comédien. Et puis les goguettes seront là, ces chansonniers qui vont avec nous résumer cette élection présidentielle autour du dîner préparé ce soir comme hier par Michel Marini, notre chef étoilé du Vaucluse. Ça sent l'asperge grillée depuis tout à l'heure en cuisine.
Oui, ce soir on fait une recette d'asperges grillées avec du chèvre à la sauge, des pignons de pain et du citron confit.
Michel, le chef étoilé du restaurant Le Champ des Lunes au domaine de Fontenay, à Loris dans le Vaucluse.
C'est ça.
À tout à l'heure, chef. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. Édito consacré ce soir à l'étrange campagne des législatives à gauche.
Étrange comme le nom de la bannière commune sous laquelle devraient se présenter les candidats de gauche, NUPES ou NUP, comme Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Étrange et inédite comme le slogan qui va couvrir les panneaux électoraux, Mélenchon Premier ministre. Étrange et inouï de voir un ancien parti de gouvernement, le PS, négocier sa survie avec celui qui a juré sa mort et n'a jamais cessé de l'enterrer.
J'ai passé 30 ans au Parti Socialiste, on ne se désintéresse pas comme ça de ce qui vous a impliqué si longtemps. Mais je n'éprouve aucune nostalgie, pour moi c'est un astre mort le Parti Socialiste. Je connais plein de gens que j'ai vus à la tribune, que je connais comme d'éminentes personnalités, mais c'est un astre mort.
Voilà, c'est mort. C'était il y a 10 ans. Jean-Luc Mélenchon qui a quasiment atteint son but après les 1,7% d'Anne Hidalgo à la présidentielle, mais qui a encore besoin de ce qui reste d'implantation locale du PS pour faire élire un maximum de députés insoumis.
Le PS qui semble avoir tout oublié de ce qu'il séparait de la France insoumise.
Oui, la République, la laïcité, le sérieux budgétaire, l'engagement européen, le maintien dans l'OTAN, le soutien militaire à l'Ukraine. Sur tous ces points, les socialistes n'avaient pas de mots assez durs. Les divergences étaient rédhibitoires. Ainsi, le patron du PS Olivier Faure, il y a seulement 2 mois après une déclaration de Mélenchon affirmant que François Hollande a déclenché une guerre au Mali. Il l'accuse de confondre agresseurs et agressés au Mali, en Syrie et en Ukraine. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie en juillet dernier.
Je pense qu'en effet, Jean-Luc Mélenchon n'est plus de gauche. Quand on est de gauche, on défend la République, on est contre le communautarisme et on ne peut pas accréditer les thèses du complotisme.
Voilà, j'en ai des dizaines comme ça dans le magasin à archives. La vérité, c'est que le PS, les écolos et les insoumis ne sont pas d'accord sur grand-chose. Ce soir, Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, annonce qu'il quittera le PS s'il y a accord avec les insoumis. Mais tout cela, aux yeux de la direction du PS, est devenu accessoire.
Accessoire, c'est-à-dire ?
Le cœur des discussions, ce n'est pas le programme, c'est les sièges de députés et la répartition des circonscriptions, les circos, comme disent les politiques. Jadis, quand la gauche était puissante, chaque parti présentait ses candidats et s'engager à se désister pour le mieux placer au second tour. Mais il y a 5 ans, 65 socialistes seulement parvenaient à se qualifier pour le second tour et 67 insoumis pour 577 circonscriptions. D'où l'idée de ces candidatures uniques que négocient ou distribuent des insoumis en position de force. C'est ainsi que les écologistes devraient représenter à la NUPES dans une centaine de circonscriptions, accord conclu, les communistes dans une cinquantaine, top là, et les socialistes, bah, c'est là que ça coince.
Le PS réclame davantage de circonscriptions.
Le PS a investi des candidats pratiquement partout. Les militants ont voté. Si les socialistes acceptent les 60 à 80 circonscriptions que leur proposent les insoumis, cela fait environ 500 candidats pressentis à débrancher. 500. Dans tous les cas, il y aura des cris, des protestations, des dissidences et des candidatures sauvages et des situations inextricables. Prenez Paris, c'est la plus grande ville dirigée par le PS avec Anne Hidalgo. Jean-Luc Mélenchon y a obtenu plus de 30% des voix à la présidentielle. Comment se partager le gâteau, sachant que la seule circonscription que détenaient encore les socialistes dans une partie du 20e arrondissement est aussi celle de la chef de file des insoumis parisiens. Danielle Simonet n'est qu'un exemple. Mais donc, à l'heure où nous parlons, ça coince encore entre le PS et les insoumis.
Est-ce que cette gauche unie pourrait conquérir une majorité à l'Assemblée nationale ?
Il faudrait un raz-de-marée insoumis, puisque c'est la formation de Jean-Luc Mélenchon qui aurait la majorité des investitures. Il faudrait aussi que l'électorat de gauche modéré se résigne à la radicalité de Mélenchon et des insoumis et ne fiche pas le camp chez Macron. Donc la majorité, c'est difficile ou improbable. La première force d'opposition, c'est possible.
Votre regard, Patrice Duhamel, sur cette étrange campagne des législatives à gauche ?
Mais c'est passionnant le sujet là, parce que la question centrale, me semble-t-il, puis Patrick a tout dit, c'est de savoir si c'est, comme le disent certains, un accord historique. Ça peut être un accord historique dans l'hypothèse où, que je juge personnellement peu probable, compte tenu du niveau de l'abstention notamment, et qui fait qu'il y aura très peu de triangulaires comme il y a 5 ans. Mais il y a eu deux fois un accord, pas de cette nature, mais entre toutes ces formations. C'est il y a 50 ans le programme commun, Mitterrand, qui voulait tuer en réalité le Parti communiste et qui y est arrivé parfaitement et assez vite.
18 pages et des mois de négociations.
Hein, absolument. Et des ruptures théâtrales, voilà. Etc. Moi, j'ai vécu ça, je m'en souviens, c'était extraordinaire, avec Georges Marchais qui était inouï. Après, il y a eu la gauche plurielle de Jospin. Et puis là, on est dans un autre cadre. Et ce qui est terrible, historiquement, j'ai pas de jugement à porter, mais le Parti Socialiste, c'est un grand parti démocratique qui a gouverné en France au total 14 ans Mitterrand, malgré les cohabitations, plus 5 ans Jospin, ça fait 19, plus 5 ans Hollande, ça fait 24 ans.
Qui est sur le point de disparaître ou de se soumettre.
Voilà, et qui est en voie soit de disparition, soit de marginalisation, soit des... A priori, on voit mal, et je rejoins ce que Patrick évoquait, voit mal comment il pourrait ne pas éclater. Ça me paraît très peu probable, on ne voit pas bien.
Mais historique, oui, dans le sens où ça ne s'est jamais produit de cette façon. Même sur les accords, la gauche plurielle avec Jospin, il n'y avait pas de programme en réalité. Hein. Il y avait un accord, oui. Et c'était un accord de désistement aussi. Il n'y avait pas beaucoup, pas dans la plupart des endroits, de candidature unique. Là, le fait de se ranger sous une même bannière et d'imposer partout des candidatures uniques, ça ne s'est jamais produit.
Et ce qui est historique et qui n'est jamais intervenu, c'est que ce soit sous la férule et l'ombrelle très large de la gauche radicale.
Jean-Luc Mélenchon qui demanderait d'être élu Premier ministre. Or, c'est une nomination.
C'est étrange constitutionnellement, en tout cas.
Voilà, puisque la nomination du Premier ministre, c'est le premier choix d'un président fraîchement élu. C'est le choix qui va marquer ces fameux 100 premiers jours. Est-ce que tout est possible là, en 2022 comme tout l'a été en 2017, ce que vous rappelez dans votre documentaire ?
Ce qui est je reprends le même adjectif, c'est à la fois passionnant et étrange, parce que on est dans une période là que l'on n'a pas connue. C'est-à-dire l'élection présidentielle a eu lieu il y a 10 jours maintenant. Ça paraît beaucoup plus loin que ça, d'ailleurs.
Oui.
Et a priori, les 100 jours, comme le président est surtout sur l'aspect international, coup de fil à Poutine, etc. Il est investi officiellement samedi. Dimanche, il y a 8 mai. Lundi 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Le Premier ministre ou la Première ministre a nommé... J'imagine dimanche, lundi ou mardi de la semaine prochaine. Les 100 jours vont démarrer à ce moment-là. Donc il y aura une longue période. Et en général, le Premier ministre, s'il n'était pas nommé tout de suite, on le dit dans le documentaire, il y a dans plusieurs occasions, on savait qui ce serait. On savait que Fillon serait le Premier ministre de Sarkozy, par exemple. Voilà, la surprise, ça a été la dernière fois, Édouard Philippe. Mais ça s'est fait assez vite.
Oui.
Là, on est dans une circonstance un peu particulière, et avec des... Moi, c'est la première fois que je vois ça, avec... On apprend qu'il y a deux personnes qui ont été très...
pressenties,
voilà,
et qui auraient décliné.
Assez peu connues, et qui auraient décliné. Bah, l'une l'a confirmé. Voilà, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.
Valérie Rabault.
Et une haute fonctionnaire.
Et la seconde, numéro 2 de Next City.
Qui était la directrice de cabinet de Manuel Valls. Deux femmes... De gauche.
2017, Emmanuel Macron avait donc choisi Édouard Philippe, qui n'avait pas fait campagne pour lui, inconnu du grand public, et qui vous confie avoir perdu 6 kilos avant même d'entrer en fonction, littéralement paniqué à l'idée de s'installer à Matignon. Il vous livre également cette réflexion sur son expérience de chef du gouvernement sous la présidence Macron.
Après avoir passé 3 années à Matignon, je pense que présider et gouverner, c'est deux choses très différentes. Très différentes. Et je pense que quand le président se mêle de gouverner... il se plante. Et je pense même qu'il est condamné à échouer.
Incroyable, ça c'est une interview enregistrée il y a un an.
Il y a un an, oui. Alors, on voit avec la, hein, avec la barbe qui est encore, qui n'est qu'à moitié blanche.
Oui, on a un marqueur temporel, effectivement. Voilà.
Mais évidemment, ça résonne comme une critique à peine masquée à l'égard d'Emmanuel Macron, qui devra... changer sa méthode de gouvernement, c'est-à-dire arrêter de gouverner et commencer à présider.
C'est ce qu'il a dit. Alors, il n'a pas dit je vais présider, je ne vais pas gouverner, mais il a dit je vais changer ma méthode de gouvernement. Et il a eu l'occasion, une fois pendant la campagne, de dire d'ailleurs mon ambition ne sera pas de gouverner, si les Français me font confiance, mais de présider. Mais bon, on voit bien que c'est une réflexion générale d'Édouard Philippe, mais qui s'applique à tous les présidents ou présidentes. Mais qui, bien entendu, concerne Emmanuel Macron. Mais il théorise là-dessus, Édouard Philippe, depuis un certain temps. Le livre qu'il avait sorti après son départ de Matignon, qui s'appelait « Impression et lignes claires », c'était sur la différence entre présider et gouverner. Donc c'est quelque chose qui lui tient à cœur, mais bon, il y a une vraie divergence, ça c'est clair.
L'un des présidents à qui on a le plus reproché présidentialisation, c'est Nicolas Sarkozy, qui lui, au contraire, à votre micro, trouve qu'il n'en a pas fait assez.
Voilà.
Et j'ai tout de suite compris que si le président ne s'occupait pas de tout, s'il n'émettait pas une énergie indomptable, ça n'avait aucune chance d'avancer. Je mettais 100 d'énergie, il en arrivait 10. On a beaucoup parlé de l'omniprésident, mais je ne l'ai pas été assez.
Il n'a pas été assez omniprésident, Nicolas Sarkozy.
Écoutez, il s'occupait à peu près de tout. Mais bon, alors,
Comme Emmanuel Macron.
Dans les présidences, il y a toujours des moments où les présidents s'occupent de tout. Ben, je me souviens, là, vous êtes tous beaucoup trop jeunes, mais il y avait eu des Jeux Olympiques, je crois que c'était ceux de Rome, où les Français ne s'étaient pas très bien débrouillés, et où il y avait eu un dessin de Jacques Faisan qui faisait le dessin tous les jours dans le Figaro.
Le général de Gaulle.
Et on voyait le général de Gaulle qui courait sur la piste et qui disait, je crois, verbatim, décidément, il faut que je fasse tout moi-même.
Bon, c'est le quinquennat qui a renforcé encore plus cette hyper-présidentialisation. Il faut revenir donc au septennat.
Écoutez, il y a un débat institutionnel, Emmanuel Macron l'a suggéré, en évoquant même l'idée d'un septennat qui pourrait être renouvelable, donc ça ferait 14 ans, ou en tout cas, qui ne se terminerait pas, donc 14 ou 21. Hein. Mais moi, personnellement, j'étais très pour le quinquennat, Et je trouve qu'au bout de 20 ans d'expérience, puisque le premier quinquennat est en 2002, celui de Jacques Chirac, avec le quinquennat et l'inversion du calendrier, donc une majorité qui jusque-là était toujours très large en faveur du président élu, il y a un problème d'oxygène démocratique et d'absence de rendez-vous démocratique lourd pendant les 5 ans. Les Français, on le voit dans les études d'ailleurs, ont le sentiment que le président a carte blanche pendant 5 ans et après ça pose énormément de problèmes à l'Assemblée nationale, au Parlement en général et parfois dans la rue.
Il y a plein de déclarations, plein d'archives extra dans votre document. L'enjeu de ces 100 jours pour un président, c'est de frapper les esprits avec des images symboliques qui restent gravées dans la mémoire des Français. C'est le général de Gaulle qui va instaurer les codes et rituels qui placent le président au cœur de la République. C'est lui notamment qui décidera de retransmettre pour la première fois l'investiture à la télévision. On le voit sur les images avec des vieilles caméras. Et seulement quelques semaines après son investiture, de Gaulle se rend dans tous les départements de France avec une mise en scène et un discours quasi identique. À l'époque, pas d'hologramme, il va partout.
Nous sommes le grand, le seul, l'unique peuple français. Grâce à cela, la France est en marche. Nous sommes un grand pays en marche. Je vous assure que nous sommes dans la bonne voie.
Vive Carre.
Vive le Berry.
Vive Clamcy.
Vive Dijon.
Vive le Bigorre.
Vive la République. Vive la France.
Mais ce que le président attend, ce pourquoi il est venu, ce qu'il invente, c'est le bain de foule présidentiel. Il se lance littéralement au contact des Français. Il se dissout dans la foule et s'y régénère à la fois. Pour de Gaulle, ces moments sont l'incarnation de sa communion avec le pays.
Samedi 11h pour la nouvelle investiture d'Emmanuel Macron, il faudra un geste fort ou au contraire une certaine réserve ?
Traditionnellement, les cérémonies qu'on appelle de réinvestiture, puisque ça a été le cas en 65 pour De Gaulle, en 88 pour Mitterrand, en 2002 pour Chirac, c'est plus sobre. Mais bon, il n'y a pas de passation de pouvoir pour commencer, puisqu'il reste. Il n'y a pas la décoration, ouais. Puisqu'ils ont déjà été décorés, ils ont été déjà fait grande croix de la Légion d'honneur. Il y a la présentation du collier, il y a les 21 coups de canon, il y a un discours. Après, est-ce qu'il y aura un geste d'Emmanuel Macron symbolique, comme il y en a eu? Vous parliez de Mitterrand au Panthéon, chacun s'en souvient. Nicolas Sarkozy qui avait fait un discours sur Guy Môquet, ce jeune résistant communiste dans la foulée. Il y a toujours le rituel du déplacement à Berlin. Et est-ce que Macron ira voir le chancelier Scholz et partira avec lui à Kiev? Je ne sais pas. Enfin,
ça pourrait être l'acte symbolique de ce début de quinquennat.
Oui, en même temps, le sentiment qu'on a, et je crois que c'est ce que dit l'Élysée depuis quelques heures, c'est que ça sera quand même beaucoup plus sobre que ça l'a été. L'originalité, la dernière fois, c'est que la surprise, elle est venue non pas
avant
le jour de l'investiture, mais le soir de l'élection.
Avec
la fameuse
Louvre.
Image du Louvre, c'est le soir de son élection. Ce n'est pas le jour de l'investiture.
Le général de Gaulle, c'est le premier président qui a vécu ces fameux 100 jours, qu'il a mené tambour battant.
Quand il était président du Conseil, déjà.
Exactement. Ah, ouais. 300, c'était la 4e République,
absolument.
335 ordonnances en moins de 300 jours, la réforme de la Constitution, réformer vite, faire passer les réformes les plus dures le plus rapidement possible, c'est le conseil que François Hollande donne dans votre documentaire à ses successeurs.
Une des solutions, si on veut gagner du temps, je le dis pour mes successeurs, leçon de l'expérience, il faut faire travailler le Parlement au mois d'août. Dans un quinquennat, il n'y a pas de temps à perdre. Donc le fait que l'on ait différé de quelques semaines, le débat sur le mariage a offert à ceux qui le contestaient, ce mariage pour tous, des moyens d'agir et même de protester.
Agir vite, et pourtant Emmanuel Macron l'a bien dit, il veut prendre le temps. Enfin, ça va être compliqué de mener de front des réformes rapides et en consultant.
Là, l'événement qui domine les 100 jours, qui va dominer les 100 jours, c'est toujours la guerre en Ukraine. Donc voilà, il y a la gestion de cette crise majeure. Mais je pense qu'il y aura très rapidement, avant l'été en tout cas, dans les 60 ou 80 premiers jours, il y aura des mesures sociales. Il va installer la commission transpartisane pour réfléchir à la rénovation des institutions et des choses de cette nature.
Et le blocage d'un certain nombre de prix aussi, puisque ça a déjà été annoncé, il y aura un paquet législatif pour...
Absolument. Et il y a toujours traditionnellement, même quand c'est un second mandat, un budget rectificatif qui est toujours au mois de juillet.
Vous le rappelez, ce concept des 100 jours, c'est le président Roosevelt qu'il a inventé. Il disait, moi, je ne peux pas être jugé avant 100 jours. Nicolas Sarkozy, vous dites, oh là là, c'est un concept médiatique. Est-ce que réellement, ce premier trimestre d'un président va déterminer tout un mandat ?
Il y a deux présidents qui, sur les 8, qui considèrent que le concept n'a pas beaucoup de signification. Il y a Nicolas Sarkozy qui le dit dans la conclusion du documentaire, et Emmanuel Macron, en 2017, avait dit, moi, les 100 jours, je n'y crois pas. Sauf que ça, c'est mon sentiment pour avoir travaillé sur tout ça. Les 100 jours, ils s'imposent au président qui a été élu, parce que c'est le regard des Français qui veulent tout de suite savoir, même dans un second mandat, ce qui va être de nouveau, ce qui va y avoir de nouveau. Et Macron, dans sa campagne, a dit, vous verrez, le second mandat, ça ne sera pas le même.
Il faudra qu'on le voie dans les 100 premiers jours.
Alors que De Gaulle, Mitterrand et Chirac, c'était quand même largement dans la continuité. Et pour ces trois présidents-là qui ont fait second mandat, le début des second mandats était très en surplomb, l'international, etc. De Gaulle, ça a été le moment où il a quitté le commandement intégré de l'OTAN. Chirac, qui s'est occupé à ce moment-là d'environnement et de la future. Il a fait comprendre aux Américains qu'il ne les soutiendrait pas sur la Seconde Guerre en Irak. Mitterrand s'est occupé de l'Europe qui était en train de, avec les pays de l'Est qui étaient en train de s'effondrer. Ça a été très dominé par la politique internationale. Macron aussi avec l'Ukraine, mais il n'y aura pas que ça. Et Patrick le disait, effectivement, sur le pouvoir d'achat, il est presque contraint de... Voilà. Mais je pense que les Français l'attendent sur ce qu'il a dit pendant les 15 jours entre les deux tours, sa campagne, c'est-à-dire je vais changer. Mmh. Voilà.
Il a 100 jours pour le montrer. Ouais.
Le premier des 100 jours, il est consacré à un cérémonial assez impressionnant, c'est la transmission des codes nucléaires. Et voilà ce que vous disent à ce propos Valérie Giscard d'Estaing et François Hollande.
Impressionné parce que c'est impressionnant, mais j'ai toujours su qu'on ne le ferait pas. Que les circonstances, les données étaient telles que nous ne lancerions pas le feu nucléaire.
Il est très important que le président soit conscient que cette arme est à sa disposition et qu'il ne l'utilisera jamais.
C'est un instrument politique. Parce que c'est une arme de non-emploi. Ça n'est pas une arme d'emploi.
Une arme de non-emploi, aujourd'hui avec la menace nucléaire russe.
C'est le principe de la politique de dissuasion française, qu'on appelle l'arme de non-emploi.
Et face à la guerre en Ukraine, face aux menaces de Vladimir Poutine, c'est presque moins évident, ça résonne en tout cas avec...
Non, ça a toujours été le principe de la dissuasion française depuis le général de Gaulle, c'est-à-dire qu'on n'attaque pas, on est prêt à réagir, et les adversaires savent que la France est prête à réagir.
C'est impressionnant quand on vous confie cette arme-là.
Moi, j'ai eu l'occasion avec deux ou trois présidents de leur demander... devant une caméra ou hors caméra, à quel moment ils avaient senti qu'ils changeaient. Et la réponse a toujours été la même. C'est au moment où on nous explique, en général, c'est le soir de l'investiture. Alors pour le second mandat, ça n'existe pas, puisque quand le nouveau président arrive, il descend au PC Jupiter, qui est au sous-sol du palais de l'Élysée, avec le chef d'état-major particulier, qui lui explique que ça va très vite, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Le système de fonctionnement qui, en réalité... C'est pas un bout de papier, c'est pas une valise que
avec un bouton,
où il y a un bouton rouge. C'est un système chiffré qui permet d'identifier le président de la République, qui permet au chef militaire d'être sûr que c'est bien le président de la République qui va éventuellement décider de déclencher le feu nucléaire.
Et qui n'est pas réellement seul à décider. Il y a une part de mythe là-dessus.
Absolument.
Un président ne peut pas décider d'enclencher le feu nucléaire sans l'état-major. Enfin, il y a tout un process et des gens qui sont consultés.
Absolument, mais le feu nucléaire ne peut pas être décidé sans
le président de la République.
Du président de la République, chef des armées.
100 jours, c'est passionnant. parce que ça fait longtemps que vous observez la Ve République, toujours avec des angles différents. Cette fois-ci, vous balayez la Ve République de De Gaulle à Macron sur ses 100 premiers jours, ce trimestre qui démarre une mandature, avec pour témoin quand même 3 anciens présidents de la République et 8 anciens premiers ministres. C'est pas rien. Le casting est assez prestigieux. C'est un documentaire co-écrit avec Gabriel Lebaumin et c'est à voir ce soir à 21h10 sur France 2. Merci Patrice Duhamel.
Merci.
Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité et notamment le procès des attentats du 13 novembre qui a repris cette semaine au Palais de justice de Paris. Et en matière de terrorisme, après le traumatisme et les blessures, se pose la question de la réparation, Émilie.
Oui, comment réparer les vivants? Comment les aider à supporter l'insupportable? La question s'est imposée après le 13 novembre 2015. Ce sont les attentats les plus meurtriers en France, 130 morts, plus de 400 blessés. Et parmi eux, Paul-Henri Bord. Ce soir-là, il travaillait au Stade de France.
Paul-Henri Bord était à la porte H du Stade de France.
On a entendu un gros boum. Puis je me suis retrouvé assis par terre. Voilà.
L'agent de sécurité est blessé à la cheville et au tympan. Pendant 30 mois, il ne peut pas travailler, fait de la rééducation. Comme lui, les rescapés du 13 novembre et les proches des victimes décédées ont touché une provision de 30 000 euros dans les mois qui ont suivi l'attentat. Ensuite, c'est le fonds de garantie des victimes du terrorisme qui leur fait une offre.
C'est la seule compensation. Il ne peut pas y en avoir d'autres.
Parce qu'on vous... On ne peut pas vous rendre votre tranquillité après une soirée comme le 13 novembre.
Ben non.
Une provision en attendant que le fonds de garantie pour les victimes de terrorisme n'évalue son préjudice, l'indemnise à sa hauteur. C'est un fonds qui a été créé en 1986 et ça avait été annoncé à l'époque par le ministre de la Justice, Albin Chalandon.
Les victimes passées du terrorisme seront totalement indemnisées pour les dommages corporels qu'elles ont subis. Pour l'avenir, les dommages matériels et corporels seront couverts par le mécanisme des assurances, éventuellement relayés par l'intervention d'un fonds de garantie, et ce, dans des délais extrêmement brefs.
Ce fonds permanent contre les actes de terrorisme est depuis alimenté par tous les assurés en France. Chaque forfait est prélevé de 5,90 euros par an. Alors cela semblait suffire jusqu'en 2015. Sauf que face à la multiplication des attaques, François Hollande décide de le revoir à la hausse. Depuis, 225 millions d'euros ont été versés à 6 324 personnes frappées par les attentats sur notre sol. Mais aujourd'hui encore, près d'une victime sur trois n'a toujours pas été indemnisée.
Bonsoir Mathieu Delahousse.
Bonsoir.
Grand reporter à l'Obs, spécialisé dans les questions de justice. Vous publiez demain aux éditions de l'Observatoire Le Prix de nos larmes, le roman noir des millions versés aux victimes du terrorisme. Vous avez passé 2 ans à suivre au tribunal de Paris les audiences de la juridiction d'indemnisation des victimes d'actes terroristes qui a pour compétence de gérer l'ensemble des litiges liés à la réparation des victimes du terrorisme. Un tribunal de poche qui siège un jeudi matin sur deux et où vous avez croisé une incroyable diversité de femmes et d'hommes qui sont là. Ce n'est pas du tout une foule anonyme et informe que vous avez rencontrée.
Non, au contraire, il y a même plein de gens assez formidables, mais il y a une dureté absolue qui est celle du tabou de l'argent et celle de la douleur du terrorisme. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est raconter ce petit tribunal de poche à l'ombre des grands procès. J'ai commencé, on couvrait à l'époque le procès des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, l'hyper cachère Montrouge. J'ai continué pendant le procès du vendredi 13 novembre. Et effectivement, on est dans une zone où, a priori, on a envie de faire demi-tour tout de suite parce que sont évoquées des douleurs terriblement intime.
Et qu'il faut quantifier, chiffrer.
Et qu'il faut quantifier. Le terrorisme trouble les nuits, trouble le sommeil, trouble l'agrément, trouble évidemment les familles endeuillées. Et il y a un système extraordinaire parce que cet extrait d'Albin Chalandon rappelle qu'on est quand même dans un pays extraordinaire et le fonds de garantie est un phénomène extraordinaire puisqu'on a une garantie d'être réparé quand on est victime du terrorisme en France. Ça n'existe pas dans tous les pays, hein, notamment dans les
Françoise
pays...
Françoise Rudelski s'est beaucoup battue.
Et Françoise Rudelski est à l'origine, c'est son bébé, comme elle le dit souvent, et elle a mis en avant ce fonds qui permet d'être indemnisé, mais qui se heurte aujourd'hui à une forme de bureaucratie et de masse considérable qui fait que, quand je rentre dans cette salle, après avoir entendu effectivement ces grandes douleurs, des grands procès, moi, je suis frappé par une bureaucratie terrifiante qui fait qu'il faut tout justifier. Et l'une des scènes, quand j'y rentre, après avoir fait une pause après des vacances, je tombe sur un homme qui était parti au Bataclan avec sa compagne pour suivre le concert. Et dans la confusion des tirs, Il doit partir, il ne trouve plus cette main qui était la main de sa femme et finalement il va la laisser dans la fosse et elle va mourir. Cet homme demande une indemnisation et quand je le vois, il est dans cette salle d'audience et je me rends compte qu'on mégote tout. On mégote son retour à la vie. On lui dit, ben finalement, vous avez retrouvé une nouvelle compagne. Peut-être que vous n'êtes pas dans la nomenclature correcte pour le préjudice d'affection. Et on va même jusqu'à contester, pour lui en particulier, le préjudice d'attente et d'angoisse de son épouse en lui disant, elle n'a pas eu le temps d'avoir peur. Et cet homme, il est sidéré. Il est sidéré parce qu'il comprend qu'il y a un système extraordinaire, mais que cette bureaucratie s'oppose à lui. Et ce que j'ai voulu raconter, c'est cette opposition entre un système idéal et
la réalité, l'inventaire poste
qui provoque des colères malsaines, un ressentiment qui, à mon avis, n'est pas dans ce qu'on voudrait avoir, c'est-à-dire la solidarité nationale et une forme de cohésion et de réparation.
Mais c'est presque mission impossible. Vous posez d'ailleurs la question qui est vertigineuse. Comment évaluer le coût de sa propre vie? Comment transformer en budget précis les pensées noires qui assaillent un être sans contour net? Comment?
Parce qu'on le fait avec une loi qui est écrite, hein. Il y a une nomenclature, le préjudice d'angoisse, le déficit fonctionnel temporaire permanent, le préjudice d'affection, le préjudice professionnel.
C'est un barème,
mais
quoi.
Tout ça, ce code, oui, mais c'est assez sain. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que la lisibilité autour de ce dispositif n'est plus garantie. Et donc, ce qui est très frappant, c'est que certaines victimes ont été réparées de façon absolument extraordinaire au tout départ. Elles touchent, c'est ce que vous disiez à l'instant, les 30 000 euros qui leur permet de revivre, parfois de racheter une voiture, de simplement s'arrêter de travailler. Et ensuite, cette négociation, ce barème, fait rentrer les gens dans une victimisation secondaire parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande ces justificatifs. Et moi, je n'ai toujours pas compris, en réalité, pourquoi cette loi n'a pas été assouplie. Ça va du petit gadget pour les gens qui disent « Moi, j'avais l'habitude d'aller dans tous les concerts de rock. Hein. » C'est l'habitude de toutes les victimes du Bataclan. Ils demandent un préjudice, ce qu'on appelle le préjudice d'agrément. On ne peut plus suivre tout ça. Et on leur demande des billets de concert pour prouver qu'ils allaient réellement au concert. Et ces gens-là ont une colère absolue. Ils veulent les billets de concert. Je vais leur amener des boîtes, leur amener tous mes billets de concert. Mais ça, c'est presque risible parce qu'il y a le préjudice sexuel, il y a le préjudice d'affection. Et certaines personnes, aujourd'hui, refusent l'indemnisation, refusent de rentrer dans le processus indemnitaire parce qu'ils estiment que leur vie va être mise à nu. Et cet élément est intrinsèque avec tout les procédures civiles, mais il provoque encore une fois des colères qu'on a vues avec le 11 septembre aux États-Unis et qui sont terrifiantes et qui sont encore une fois dans tout le contraire de l'esprit de la loi qui était exposé tout à l'heure.
Albert Chalandon.
C'est-à-dire de retrouver une forme de cohésion et d'éviter des colères particulièrement malsaines et des incompréhensions qui nuisent à cette cohésion qu'on aurait voulu retrouver.
En parlant de colère, il y a l'avis de Claire Vigny, qui est une aide-soignante dans le Sud. On se rend compte là à quel point c'est difficile pour elle de demander une indemnisation. Elle a perdu son fils, sa mère, son frère dans l'attentat de Nice. Son deuxième fils a été, lui, grièvement blessé. Elle finira par perdre son emploi dans un EHPAD qui l'emploie. Et en 2020, vous la rencontrez. Les expertises du fonds de garantie sont toujours en cours. Elle vous dit... Ils essaient de tout minimiser.
Parce que c'est le sentiment que ça leur donne. C'est ça qui est effrayant. C'est qu'elle a touché une forme de provision. Elle a pu acheter une voiture pour aller travailler, pour s'occuper de son fils, parce qu'elle était avec un fils rescapé qui est un peu sa raison de vivre à cette dame qui est très émouvante. Mais ce qu'elle ne supporte pas, c'est d'avoir eu toutes ces cérémonies extraordinaires, les grands discours présidentiels, les drapeaux, les Marseillaises, les chansons, les concerts, et puis de recevoir des listes où on lui dit finalement, vous n'aviez pas autant de dépenses sur tel ou tel poste, et elle a le sentiment qu'elle devient une marchandise et qu'on négocie. Et c'est assez troublant d'avoir ce contraste entre la grande solidarité nationale et ce fait qu'on négocie. Et en fait, elle le vit très mal. Et ce qu'elle raconte à la fin, c'est qu'elle dit « Bon, ben, finalement, moi, je ne me considère pas comme victime. » Elle dit « Vous plaisantez, vous étiez parti à 7 sur la promenade des Anglais pour voir ce feu d'artifice et vous êtes revenu à 3, vous êtes une victime. » Et en fait, il y a aussi cet aspect de vouloir se détacher de cette image de victime qui est assez terrifiante.
Ils sont nombreux, d'ailleurs, à ne pas vouloir être considérés, appelés victimes. Il y a notamment Robert Batz qui vous dit oui. Non, mais vous me parlez normalement comme si j'étais pas en sucre, ça fait du bien, quoi.
Mais parce que c'est l'autre aspect, ouais. L'autre aspect totalement exceptionnel de ces attentats, et là on est loin de la polémique avec le fonds de garantie, oui. C'est que ces gens, finalement, ils se sont retrouvés dans un événement hors du commun, ils ont voulu en sortir, et ensuite. Il le dit d'ailleurs, cet homme, il le dit physiquement, il dit le sort de victime m'est tombé dessus. Parce que ces gens-là, ils auraient été attaqués à la Kalachnikov sur une route de campagne en partant travailler, ils seraient allés immédiatement à la gendarmerie porter plainte. Ces gens-là, ils sont partis en voiture avec leurs copains, ils avaient encore les bouchons d'oreilles du concert sur eux, et puis ils se sont dit, bon, on va essayer de passer une nuit et de repartir. Et puis 3-4 jours après... c'est le grand traumatisme du terrorisme, les crises de larmes, les difficultés à retravailler, l'impossibilité totale de se concentrer. Et tout ça forme aujourd'hui ces victimes qui ne voulaient pas l'être et qui doivent bien reconnaître qu'elles le sont.
Puis la bureaucratie dont vous parlez, c'est aussi quand on reçoit le rapport d'expertise. Vous avez un témoignage fort, celui de Bérangère, qui était avec son compagnon Jules au Bataclan. Et elle a cette phrase qui résume... toute la difficulté d'indemniser. En fait, dit-elle, on est traité comme des dégâts des eaux. Le rapport, la réception du rapport d'expertise est brutale. On ne comprend pas les chiffres et on a du mal à rentrer dans les barèmes. Quand j'ai lu ça, j'étais dévasté et je me suis même arrêté. Ça ne peut pas être juste un document d'expertise aussi rébarbatif et fermé.
Non, et surtout, ça ne peut pas être une renégociation de la vie. Parce que ce couple-là, et alors ils sont assez fabuleux, pour la petite anecdote, c'est des gens qui ont totalement changé de vie. Et c'est des gens totalement rafraîchissants par rapport à ce travail et à cette dureté. Parce qu'eux, ils envoient des petits messages à leurs avocats ou aux journalistes que je suis en leur disant « ça va, j'espère que le procès n'est pas trop dur ». Ils ont vraiment tourné la page. Mais eux, quand ils reçoivent le rapport d'expertise, ce qu'ils ne comprennent pas en réalité, c'est qu'on vient explorer leur vie sur tout ce qui s'est passé avant 2015, en cherchant, un peu comme on cherche la fissure au mur qui précédait le dégât des eaux, en leur disant « mais vous n'aviez pas été un peu malade auparavant, vous n'avez pas consulté un psychiatre en 2013 ou 2014, et donc vous avez un préjudice antérieur ». Et ça, ça se comprend très bien quand on fait du dommage corporel, quand on fait du droit civil, mais ça ne se comprend pas pour eux quand on a été pris dans un événement national et que partout on leur a répété qu'ils étaient des victimes prioritaires.
Le prix de nos larmes, c'est à sortir demain aux éditions de l'Observatoire. À la fin du livre, vous proposez d'ailleurs des solutions pour faciliter ces indemnisations. Par exemple, imaginez une présomption de bonne foi. C'est-à-dire qu'on est à remplir un formulaire sans produire les nombreux documents qui sont demandés. Quoi. C'est l'une des solutions et des pistes envisageables. Ça paraît simple, en fait.
L'une des pistes, en réalité, c'est d'arrêter cette bataille qui est une bataille financière qui est absolument terrifiante à voir et qui fait des dégâts chez les bénéficiaires.
Merci beaucoup Mathieu Delahousse d'être venu sur le plateau de C'est à vous. Vous restez avec nous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, de nouvelles sanctions contre les oligarques russes.
Oui, le gouvernement a décidé d'accélérer sur le gel des biens russes en France. Comme révélé ce matin par Le Parisien et confirmé à C'est à vous, le ministère de l'économie a désormais gelé 64 biens en France. Des bâtisses de luxe en plein Paris, comme cette résidence à deux pas du Quai d'Orsay, des villas aux Antilles et sur la Côte d'Azur, des propriétés estimées à plus de 700 millions d'euros. Ce montant, c'est d'ailleurs le prix d'achat des résidences et non pas leur valorisation actuelle qui avoisinerait plusieurs milliards d'euros. Parmi ces biens, un château rare estimé à 11 millions dans la petite bourgade de Saint-Léger en Yvelines, à une heure de Paris, où se sont rendus Anaïs Réocouli et Iban Raïs.
Il y a eu plusieurs propriétaires successifs et quand ils l'ont racheté, ils ont entièrement refait le château, intérieur, extérieur et les dépendances. Le propriétaire, je ne l'ai jamais rencontré. Par contre, son épouse a vécu en résidence principale, s'est investie dans le village et avait son dernier enfant, la fille, dans l'école du village à Saint-Léger. Alors, l'avenir de ce château, ça dépend des propriétaires. Est-ce qu'ils vont revenir un jour ?
Ils n'ont plus le droit de revenir, là.
Et on ne peut pas le dire, mais le château est quand même avec un gardien qui surveille la propriété.
Le château du Clos-Renard est réputé pour ses terres idéales pour la chasse. Il appartient à une société immobilière dont le propriétaire serait Mikhaïl Babakov. C'est le fils d'Alexandre Babakov, député de la Douma, très proche du Kremlin. En 2014, l'opposant du pouvoir russe Alexei Navalny avait révélé que l'achat de ce bien avait été caché au fisc russe. Babakov aurait été aussi un homme de clé dans l'acquisition du prêt du FN par une banque russe selon Mediapart. Depuis 3 ans, le clos renard est complètement vide.
Je ne les connais pas particulièrement et pas personnellement, mais oui, j'ai vu une fois une dame là, et puis surtout on voit le personnel qui passe.
C'était quand la dernière fois que vous avez vu cette dame dont vous me parlez ?
Oh, ça fait très longtemps, peut-être 2 ans ou 3 ans, hein. Oui, on la voit très très peu.
Est-ce que vous saviez que cette propriété, elle vient d'être saisie par l'État ?
Pas du tout, je ne savais pas qu'elle avait été saisie par l'État. On n'a pas vu de personne arriver, on n'a pas vu de voiture de police, on n'a rien vu de tout ça.
En plus de ses propriétés, des cargos, des œuvres d'art, regardez ces 6 hélicoptères et 4 yachts qui ont été saisis par la douane française. C'est un total de près de 24 milliards d'euros, 24, qui font aujourd'hui l'objet d'un gel par le ministère de l'Économie et des Finances. Autrement dit, les propriétaires russes ont l'impossibilité d'en avoir l'usufruit ou de les vendre. Pour le célèbre avocat et lanceur d'alerte William Bourdon, il faut aller encore plus loin.
Qui serait historique, et on y arrive, c'est la cohabitation de mesures de gel, donc sanctions administratives politiques édictées par l'Union européenne, par Bercy, les États-Unis, etc., avec des mesures de saisie pénale, si elle est enquête judiciaire, et ensuite avec des demandes de réparation et d'indemnisation, à la fois du côté ukrainien qui diront mais cet argent doit servir à la reconstruction de l'Ukraine, et un peuple russe qui peut-être un jour pourra s'exprimer, pour l'instant il est bâillonné, et qui dira, ben nous aussi, on a été appauvris, on a perdu nos emplois, nos ressources.
La plupart des propriétaires de ces biens font désormais partie de la liste noire de l'Union européenne et n'ont plus le droit de venir en France. Patrice Duhamel, geler les biens, les propriétés des oligarques russes, ça ressemble à un acte très symbolique de la part du gouvernement français.
Ben, on comprend bien d'abord, il y a de la morale. Hein. Mmh. Donc ce n'est pas inutile, la morale, dans ces circonstances-là. En plus, je pense que c'est... Le fait même que les Français voient ces bateaux, etc., ça les choque. Ça leur permet de prendre conscience de la manière dont le gouvernement et l'État russe sont gérés. Mais je crois surtout que quand on leur parle de sanctions, le système de transactions financières internationales, SWIFT, etc., je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne tout de suite ce que ça signifie exactement. Mais en revanche, quand on voit qu'un bateau comme celui-là a été saisi, je ne sais pas si c'est celui-là, dans les premiers jours de mars, oui. C'est-à-dire 10 ou 15 jours après le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, ça, voilà, visuellement, les gens comprennent qu'il y a des sanctions qui sont prises concrètement et qu'il y a vraiment des oligarques qui sont gênés, et c'est un euphémisme, dans leur vie quotidienne, dans leur liberté de circuler, etc. Donc visuellement et symboliquement, c'est important.
Et il faut le préciser, ces propriétés ne sont pas encore saisies, puisqu'il faudrait une décision de justice, ils sont gelés par l'État français. Et d'ailleurs, le maire de Saint-Léger nous a dit qu'il aimerait bien récupérer le château pour 1 euro symbolique. Voilà.
Bon, c'est pas le cas, c'est pas tout de suite le cas. C'est une bonne sanction, c'est une justice... immédiatement.
Là, c'est surtout un processus assez impressionnant parce que ça avait été fait, ce qu'on avait appelé les biens mal acquis sur plusieurs chefs d'État africains, notamment Théodore Obiang, et sur lequel plusieurs voitures avaient été saisies, et sur lequel il y a une agence judiciaire française qui vend ces biens désormais, et ça fait effectivement des mannes pour l'État, et éventuellement, comme le dit William Bourdon, pour financer les Ukrainiens.
Merci beaucoup, Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir à toutes et à tous.
Mathieu, le droit à l'avortement est-il menacé aux États-Unis ?
Plus que d'habitude, plus que jamais. En tout cas, le site Politico révélait la nuit dernière cette ébauche que vous voyez. Il s'agit d'un projet de décision de la Cour suprême qui supprimerait le droit constitutionnel à l'avortement aux États-Unis. C'est encore en discussion, mais cette fuite inédite a suffi à mettre le feu aux poudres.
And we begin with breaking news.
We have breaking news.
Breaking news out of Washington.
We have huge breaking news tonight, and I can't even
believe I'm going to tell you what I'm about to tell you.
A well-known political news website has obtained a draft opinion from the U.S. Supreme Court.
Majority opinion overturning the landmark ruling that established abortion rights in America.
This is a terrible outcome, not just for women, but for all Americans.
That would make abortion illegal in at least half the country the day that it goes into effect.
This could be the most consequential opinion in decades.
C'est en fait un texte qui viendrait écraser un arrêt précédent, l'arrêt Roe versus Wade de 1973, jurisprudence de la Cour suprême qui garantit aux femmes la liberté de disposer de leur corps dans tout le pays. À partir d'une telle décision, si elle était prise, voilà à quoi pourrait ressembler la carte des États-Unis, carte du droit à l'IVG selon les États. Chaque État pourrait adopter sa propre législation. Même si la décision finale n'est attendue que pour l'été, très rapidement, hier soir, des manifestations pro et anti-IVG se sont tenues dans la capitale américaine devant le siège de la Cour suprême. Écoutez ce qu'en pensent ces Américains interrogés par nos confrères outre-Atlantique.
Backwards, like centuries ago,
we should definitely be supporting women's rights, and I don't think that's going to make anything better in our society. We should be moving forward, not backward.
Not a positive thing in my eyes.
I mean, what if it isn't your choice, or like what if it happened without your consent?
And I just feel like a woman's body should be, they should have freedom to it. They should have a right.
Cette décision, est-ce qu'elle est juridique ou politique ?
Alors, c'est toute la question. La Cour suprême, c'est un peu notre conseil constitutionnel. C'est le sommet du pouvoir judiciaire américain. Ces 9 juges sont nommés à vie par le président des États-Unis et elles ont la mission de veiller au respect de la Constitution et à la validité de ses interprétations. Alors, selon les observateurs, les manifestations de défenseurs du droit à l'IVG la nuit dernière rappelaient les veillées funèbres à la mort de Ruth Bader Ginsburg en 2020. Magistrate à la Cour suprême, résolument progressiste, son siège laissé vacant, libre, juste avant les dernières élections. C'est Donald Trump qui a eu pour charge de la remplacer. Regardez déjà cette promesse qu'il faisait, ça c'était en 2016.
Do you want to see the court overturn Roe?
Well, if we put another 2 or perhaps 3 justices on, that's really what's going to be, that's will happen. And that'll happen automatically, in my opinion, because I am putting pro-life justices on the court. I will say this, it will go back to the states. And the states will then make a determination.
L'ancien président qui a donc tenu parole et à quelques semaines seulement de son départ de la Maison-Blanche en particulier. Alors, ainsi, il a accentué le poids des conservateurs à la Cour suprême. Vous voyez la photo de classe. 3 progressistes contre 6 conservateurs. Les républicains, les conservateurs ont désormais un avantage écrasant, d'autant que la dernière arrivée, Amy Coney Barrett, nommée par Donald Trump, donc, n'a que 50 ans et qu'elle doit, je vous le rappelle, siéger à vie. Les défenseurs des droits à l'avortement savaient que ça pouvait arriver. Cela dit, écoutez, Amy Coney Barrett, lors de son audition par le Sénat, avant d'intégrer la Cour suprême.
Judges can't just wake up one day and say I have an agenda, I like guns, I hate guns, I like abortion, I hate abortion and walk in like a royal queen and impose, you know, their will on the world. I can't pre-commit or say yes, I'm going in with some agenda because I'm not. I don't have any agenda. I have no agenda to try to overrule Casey. I have an agenda to stick to the rule of law and decide cases as they come.
Alors, pour revenir à la décision annoncée dont une ébauche a fuité, est-ce que c'était une décision politique, disiez-vous, Babette ? Faut-il s'attendre aussi à d'autres décisions de ce genre avec cette Cour suprême résolument conservatrice ? Ibn Raïs et Anaïs Rokouli ont posé la question à Jean-Éric Brana, il est maître de conférence et expert des États-Unis.
C'est un séisme en réalité, puisqu'on remet en cause un droit fondamental qui n'est pas tant que ça le droit à l'avortement, mais le droit à la vie privée. Et à partir de ce droit-là, il y a tout un ensemble de valeurs qui peuvent être mises en cause. Alors bien sûr, il y a l'avortement, il y a la question du mariage pour tous, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en cause par les conservateurs qui peuvent ainsi opposer des valeurs morales pour refaire la société telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Les progressistes pensent qu'on doit adapter le droit au temps qui passe. Pour les juges originalistes, même si cela crée le chaos, on ne doit pas créer du droit et donc on refuse ce qui n'est pas dans la Constitution. Le droit à l'avortement n'est pas dans la Constitution en tant que tel. Donc ils disent, c'est au Congrès d'aller faire une loi si jamais le Congrès n'est pas content, même s'il y a une majorité impossible comme actuellement.
cet après-midi, le président de la Cour suprême des États-Unis a confirmé l'authenticité du document qui a fuité.
Un commentaire, Mathieu Delahousse.
Ce qui est très intéressant quand on voit ça, c'est le poids des juges de la Cour suprême aux États-Unis, The Nine, hein, qui ont une importance très forte et qu'on regarde aujourd'hui un peu comme la composition d'une Assemblée nationale ou d'un Parlement, chacun ayant son opinion. Et c'est vrai que par rapport aux institutions françaises, où on serait bien en peine de citer dans le grand public tous les membres du Conseil constitutionnel, The Nine, ici, ont un poids considérable sur la vie démocratique américaine.
Ils sont nommés à vie.
Oui, la Cour suprême a beaucoup plus de pouvoir que...
Absolument.
Conseil constitutionnel qui n'est pas une Cour suprême. Cours d'État réunis. Mais ça va être une bataille électorale maintenant. Joe Biden a réagi dès cet après-midi en appelant pour les élections de novembre, les midterms, à appeler les électeurs à se battre pour le maintien du droit à l'avortement. Et effectivement, ça dépend du Congrès. Si les démocrates parviennent par miracle à garder la majorité ou à la renforcer éventuellement, il peut contrarier la décision de la Cour suprême.
Le marché automobile en chute libre, Mathieu.
11e mois de baisse consécutive, 108 000 nouvelles immatriculations au mois d'avril dernier. C'est 22,6% de moins qu'il y a un an. Plus de 30 000 véhicules. Tout de même, on a rarement acheté aussi peu de voitures neuves en France. On peut trouver pire, oui, en avril 2020, quand toutes les concessions étaient fermées. À la même période de l'année, on avait quasiment vendu deux fois plus de véhicules en 2019. Alors Camille Schmitt a interrogé François Roudier, c'est le représentant des constructeurs français, pour qu'il nous explique cette chute.
On a tout d'abord l'effet post-Covid où on a manqué dans le monde de composants électroniques. Et on a en plus maintenant d'autres facteurs qui s'ajoutent. D'abord, les nouvelles usines de puces électroniques qui étaient faites en Chine, elles sont fermées parce qu'on a le retour du Covid en Chine. Et on a en plus les problèmes de l'Ukraine qui affectent certains composants. Donc on a un vrai problème industriel qui se répercute sur le client final, puisqu'on va lui dire, vous avez entre 2 mois jusqu'à 9 mois d'attente. C'est un vrai moment historique. On se retrouve vraiment devant un mur avec quasiment une impossibilité pour nous de voir une perspective de sortie très rapide de ce problème.
Vous l'avez entendu, le contexte de la guerre en Ukraine, on manque de câbles qui sont produits là-bas, le retour du Covid en Chine donc et la pénurie de semi-conducteurs. Comprenez bien qu'on achète peu de voitures et que quand on veut le faire, il y a des mois d'attente. Ce que disait François Roudier, Louis Amar et Audrey Payas se sont rendus en concession.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous devez faire face dans un contexte comme celui-ci?
C'est principalement la gestion des approvisionnements, de la production du véhicule jusqu'à son arrivée sur le sol français et dans les concessions de la marque. C'est le problème qu'on rencontre par rapport à une année classique, on va dire. Aujourd'hui, la principale répercussion, c'est l'allongement des délais. Donc, sur des véhicules qu'on a en stock, qu'on peut livrer sous 24 heures, ça, il n'y a aucun problème. Sur des nouveautés, globalement, sur un véhicule comme celui-ci, qui est sorti en début d'année, on est sur des délais encore acceptables pour le client, mais qui sont aux alentours de 6 mois.
Donc, on est quasiment sur un doublement du temps d'attente.
Quasiment. C'est pas simple. Aujourd'hui, effectivement, le client tourne et le client va à la facilité. Certains clients attendront parce qu'ils veulent un produit bien précis et ils sont capables d'attendre. D'autres, plus pressés, se tourneront vers les constructeurs qui proposent des stocks rapides.
À noter toutefois, sachez que désormais, sur les véhicules immatriculés en France, une voiture sur 5 est électrifiée, électrique ou hybride.
On termine en musique, Mathieu.
Oui, avec une première annonce pour les 80 ans de Paul McCartney. Au mois de juin, un concert sera organisé au 20 Fort Lynn Road à Liverpool. C'est là que McCartney a passé une partie de son enfance et c'est là qu'avec John Lennon, ils ont écrit ça. I Saw Her Standing There, qui figurera ensuite sur le premier album des Beatles. Mais mieux que ce concert, imaginez un duo John Lennon-Paul McCartney. Pour le lancement de sa nouvelle tournée américaine, Paul McCartney a exaucé ce vœu impossible depuis la mort de Lennon en 1980. Simplement en vidéo, pas beaucoup de technologie, mais derrière lui sur scène, sur la chanson I've Got a Feeling. Simple, mais assez classe. Pour ce duo, Pierre aura reconnu bien sûr les images du dernier concert des Beatles sur le toit de leur studio londonien le 30 janvier 1969. Je ne l'ai pas demandé avant parce que j'en étais. Ça lui a déjà eu la chance de voir McCartney et Lennon ensemble en vrai.
Et il y aura quelque chose en France pour les 80 ans de Paul McCartney?
Ça, c'est le début de sa tournée américaine. Il faudra surveiller les dates parce qu'on
aimerait
bien
voir... Ça commence aux États-Unis. Ouais, bah oui.
Passage à C'est à vous.
Bah oui, on a un toit.
On l'invite. On a un toit.
On a un toit. On a des... Franchement, on peut diffuser... Ouais.
On amène un gâteau. On sait faire.
On sait souffler les bougies. Enfin, voilà. Franchement, on est fin prêt pour accueillir Paul McCartney. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Patrice Duhamel. 100 jours, c'est ce soir à ne pas rater à 21h10 sur France 2. Signé également Gabriel Le Bonin, qu'on salue. Merci beaucoup, Mathieu Delahousse. Le prix de nos larmes, c'est à paraître demain aux éditions de l'Observatoire. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, Michel Simès nous dit de prendre soin de nous et notamment de notre cœur. Et Alexandre Brasseur aussi nous parlera de son chemin de comédien au cours duquel il a beaucoup additionné d'expérience. A tout de suite pour le dîner, c'est à vous.